Bonjour. Les représentants du secteur pétrolier et des transports attendus à Matignon. Le gouvernement reste ferme face à la mobilisation contre la loi travail. Une votation citoyenne néanmoins organisée en début de semaine alors qu'une partie de la gauche écrit au chef de l'État pour demander une sortie de crise. C'est en pleine tourmente qu'Europe Écologie Les Verts organise ses assemblées régionales ce samedi à quelques semaines d'un congrès national crucial. Les militants doivent se prononcer sur 5 motions, nous dira Estelle Schmitt. À l'étranger, 2 offensives d'ampleur contre l'État islamique. À Fallujah en Irak et à Raqqa en Syrie. Elles occultent les avancées des djihadistes dans la région d'Alep en Syrie. Explication à suivre de Ludovic Piétenu. De la glycine sur la comète Thury, découverte de la sonde spatiale Rosetta. Nous verrons pourquoi c'est important en fin de journal. Enfin à 8h10, votre rendez-vous avec la chronique économique et Jean-Marc Chardon. Le Premier ministre Manuel Valls reçoit les acteurs de la filière pétrole et les représentants du secteur des transports en fin de matinée à Matignon. Objectif, faire le point sur l'approvisionnement des carburants. La quasi-totalité des dépôts pétroliers ont été débloqués, mais 6 des 8 raffineries du pays sont toujours à l'arrêt ou tournent au ralenti. Par ailleurs, la grève a été reconduite aux terminaux pétroliers du Havre et de Marseille. Le bras de fer se poursuit avec la CGT et FO sur la loi travail et toutes les solutions vont être étudiées ce matin pour éviter de nouvelles pénuries, Delphine Simon.
Toutes les possibilités sont sur la table, selon Manuel Valls, y compris réquisitionner des salariés dans les raffineries, comme en 2010, lors du conflit social contre la réforme des retraites. Dans son bras de fer avec la CGT, le gouvernement s'organise. La priorité, c'est d'assurer le bon fonctionnement de l'économie. Si les dépôts de pétrole sont libres d'accès, désormais, 4 raffineries sur 8 sont toujours à l'arrêt. La grève est reconduite aux terminaux du Havre, où transite 40% du pétrole brut importé en France, des terminaux qui alimentent les aéroports parisiens. Des injonctions ont été prises pour assurer un service minimum, mais depuis hier, à la demande de la DGAC, les avions moyens courriers font le plein de kérosène à l'étranger. Ils rentrent à Paris avec des réserves pour l'étape suivante. Autre mesure exceptionnelle, les chauffeurs routiers, autorisés à rouler tout le week-end pour réapprovisionner les stations-service. Quant au prix de l'essence qui augmente à la pompe, pour l'UFIP, cela peut être le fait de pompistes indélicats, mais surtout parce que les prix du pétrole sont repartis à la hausse sur les marchés.
Depuis le G7 au Japon, François Hollande est resté ferme hier face aux opposants à la loi travail. Les 7 organisations hostiles au projet de loi, CGT et Force ouvrière en tête, ont encore appelé à amplifier la mobilisation. Nouvelle manifestation prévue le 14 juin à Paris, 4 jours après le coup d'envoi de l'euro au Stade de France. D'ici là, les syndicats contestataires organisent dès lundi une votation citoyenne dans les entreprises, administrations et lieux d'études comme les universités. Dans ce contexte toujours très tendu, une 50aine de députés de gauche emmenés par le frondeur Christian Paul ont envoyé hier après-midi une lettre au chef de l'État, François Hollande. Il lui demande une sortie de crise. Toujours en politique, chez Europe Écologie Les Verts, des assemblées régionales se tiennent aujourd'hui partout en France, en amont du congrès national du 11 juin. Les militants se prononcent sur la ligne politique dans un contexte tendu. La semaine dernière, le groupe écologiste a explosé à l'Assemblée nationale et plus globalement, la formation a vu son nombre d'adhérents divisé par 2 depuis 4 ans. Les précisions d'Estelle Schmitt.
5 textes avec des noms parfois exotiques, le grand projet utile, l'imprévu ou encore tic-tac pour très important congrès pour toute autre chose. Malgré la crise qu'ils traversent, les Verts s'amusent, mais derrière ces jeux de mots, il y a l'orientation politique du parti. Si toutes les motions sont en rupture avec François Hollande et le gouvernement, toutes n'ont pas la même vision de l'avenir. Un candidat à Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, forcément pour certaines, pas obligatoire pour d'autres. Pour les législatives, faut-il y aller seul, s'allier à nouveau avec le parti socialiste, seule une motion ne l'exclut pas, ou désormais s'unir avec la gauche de la gauche. Les adhérents fixeront la ligne. Des représentants politiques, des militants dont le nombre a fondu, divisé par 2 en 2 ans. Il serait aujourd'hui 5 à 6 000 selon plusieurs membres du parti, moins nombreux qu'au Parti démocrate chrétien de Christine Boutin, mais déterminés à ne pas laisser mourir l'écologie politique. Europe Écologie Les Verts va se refaire une santé en 2020 avec les municipales, prédit un élu. Plutôt optimiste.
À Béziers, le maire Robert Ménard lance ce week-end le mouvement Au Stade Droite. Il rassemble à cette occasion dans sa ville plusieurs centaines de personnalités des mouvances catholiques traditionnalistes aux identitaires ainsi que des intellectuels controversés comme Renaud Camus. La députée FN du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen, sera aussi présente.
Deux jours après une vidéo montrant des conditions d'élevage indignes dans un établissement de l'Ain, la préfecture a ordonné hier soir un vide sanitaire, décision rare qui devrait conduire à l'abattage des 300 000 volailles. Dans les images diffusées par l'association de protection animale L124, on pouvait y voir des poules déplumées et entassées dans des cages à perte de vue, ainsi qu'une prolifération de poux et d'asticots. Sébastien Arsac est le président de l'association L124. Il n'en attendait pas moins de la part des autorités.
C'est une satisfaction oui et non, c'est quand même aussi amer parce qu'on apprend en même temps que l'agrément est retiré, ce qui serait plutôt une bonne chose, c'est qu'il y a l'abattage de 200 000 poules pondeuses en même temps. Et donc là nous on est en train de s'organiser avec différentes associations pour demander d'organiser un sauvetage du plus grand nombre de poules pondeuses possible.
En tous les cas, la fermeture de cet élevage, vous la réclamiez?
Oui, bien sûr, la fermeture de cet élevage, on la réclame et je pense que ça va être un soulagement pour aussi les riverains à côté, pour pas mal d'employés qui ont aussi tiré la sonnette d'alarme, hein, qui en avaient marre de travailler dans ces conditions-là. Et à un moment donné, oui, il faut prendre des mesures un peu radicales, ça c'est sûr.
Des propos recueillis par Claude Cordier. En Syrie et en Irak, les regards sont tournés vers les deux grands assauts en cours menés par la coalition internationale contre l'État islamique. L'un vise Raqqa, le bastion de l'EI en Syrie, pas moins de 150 raids aériens en 3 jours. L'autre, les villes de Fallujah et de Mossoul en Irak. Des manœuvres qui occultent néanmoins les progrès de l'EI dans la région d'Alep en Syrie, Ludovic Piétenu.
Au nord de la deuxième ville de Syrie, le village de Maréa est un peu plus loin, tout près de la frontière turque, la petite ville d'Azaz. Un secteur aux mains des rebelles depuis 2012, qui résiste aux assauts de l'État islamique. Mais Daesh vient de couper la route entre ces deux localités, isolant les rebelles des autres zones qu'ils contrôlent. Les djihadistes ne sont qu'à 5 km d'Azaz. Point stratégique, c'est le lieu où arrivent, via la Turquie, les combattants étrangers qui veulent en découdre avec l'État islamique, ainsi que toute la logistique, les armes et les munitions. C'est une offensive importante de l'État islamique. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, c'est même la plus marquante dans cette province d'Alep depuis 2 ans. Selon un décompte d'une autre ONG Human Rights Watch, cette avancée met en péril la vie d'environ 165 000 Syriens qui dorment dans des camps de fortune installés dans ce secteur frontalier, car ils ne peuvent pas fuir. L'ONG, dans un communiqué hier soir, dénonçait les deux murs qui existent sur cette frontière syro-turque. Le premier, celui bâti par Ankara il y a un peu plus d'un an, où les gardes n'hésite parfois pas à tirer sur les Syriens qui cherchent asile. Le deuxième mur est celui du silence du reste du monde, y compris des Nations Unies, écrit Human Rights Watch, qui ont choisi de ne pas voir une Turquie qui n'hésiterait pas à renvoyer en Syrie certains demandeurs mettant en danger leur vie. Cet assaut de l'État islamique a, en l'espace de 3 jours seulement, acculé 45 000 Syriens contre cette frontière autour de la ville d'Azaz, venu grossir ses campements improvisés.
Des précisions signées Ludovic Piétenu. Elle explore depuis bientôt 2 ans la comète Chury à des centaines de millions de kilomètres de nous. La sonde spatiale Rosetta vient de détecter un acide aminé, la glycine, dans la queue de l'astre gris-bleu. Sophie Becherel, vous nous expliquez en quoi cette découverte est importante.
Pour les chimistes, la glycine, c'est un élément essentiel, un ingrédient très simple, mais en même temps symbolique de ce qui a pu conduire à l'apparition de la vie. Il s'agit d'un acide aminé, le plus simple de tous, et on le trouve dans toutes les protéines de nos cellules. Hervé Cotin, astrochimiste et professeur à l'université Paris-Est-Créteil.
Le fait qu'il y ait de la glycine sur le noyau de la comète Chury, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de savoir que la Terre primitive a été ensemencée par des molécules et parmi ces molécules, il y avait justement cette brique qui nous semble assez essentielle pour comprendre l'apparition de la vie sur la Terre. Et en fait, grâce aux comètes, on a un accès direct à certains ingrédients amenés sur la Terre et qui ont pu contribuer à la recette de ce qu'on appelle la soupe prébiotique. Nous autres chimistes, on appelle la soupe prébiotique, en fait, ce mélange dans les océans d'eau liquide sur la Terre de molécules qui ont pu continuer à évoluer et, in fine, contribuer à l'apparition de la vie.
C'est cela que cherchent à reconstituer les astrochimistes. Depuis l'origine de l'univers, comment est-on arrivé à la vie que seule aujourd'hui la Terre abrite ?
8h10 sur France Culture, la chronique économique de Jean-Marc Chardon. Ce matin, un regain d'activité perceptible chez les entrepreneurs, mais une forte montée du stress devant les incertitudes.
Au croisement d'une batterie d'indicateurs, il saute aux yeux que les signes d'un rebond économique s'accumulent depuis le début de l'année. Des signes manifestes sur l'investissement des entreprises. Déjà, il y a l'assureur Coface qui pronostique que pour la première fois depuis 2012, l'investissement des entreprises devrait contribuer positivement à la croissance cette année, y compris dans la construction. La Coface table sur 1,6% de croissance, plus que le gouvernement, et cela corrélé avec une diminution des défaillances d'entreprises. Cet optimisme, il transparaît des chiffres de la Banque Palatine, des PME et entreprises intermédiaires. À 39%, la confiance en l'économie française rebondit et fortement de plus de 7% au mois de mars. Ça va également mieux pour l'emploi avec 18% des PME prévoyant d'augmenter les embauches. Ces chiffres, ils sont encourageants mais plus déterminantes encore, les données issues d'une autre enquête, celle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Elle part d'une base très large, 275 000 entreprises. Elle aussi, elle montre que les embauches ont progressé jusqu'à 1,1% au premier trimestre dans les entreprises de moins de 10 salariés. Le réveil de l'investissement se confirme, TPE et PME retrouvent des couleurs, concluent les experts comptables. Mais voilà pourtant un bémol, c'est un sondage qu'il révèle, élaboré par l'assureur MMA. Il nous apprend que depuis un an, le stress a fortement grimpé parmi les presque 3 millions de dirigeants de TPE-PME. De 38% en 2015, il est passé à 55%, avec les symptômes liés, fatigue, douleur, épisodes dépressifs. Les causes, la trésorerie de leur entreprise, les incertitudes sur l'activité, la surcharge de travail. 4 entrepreneurs sur 10 travaillent plus de 50 heures par semaine, plus encore chez les commerçants et les exploitants agricoles. Or, cette poussée de stress, elle se répercute pour 15% d'entre eux négativement sur l'activité de l'entreprise. Au bout du compte, un paradoxe. Des chefs d'entreprise plus stressés, mais qui veulent croire en même temps à l'avenir de leur entreprise.
Merci Jean-Marc Chardon. Votre chronique est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de votre samedi est orageuse. Les régions méditerranéennes resteront néanmoins à l'écart jusqu'à la fin d'après-midi. Partout ailleurs, grisaille et pluie. Les températures oscillent ce matin entre 11 à Brest et 22 à Nice.